Je crois à l'influence immense des images.
On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « Mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. »
Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
Il y a des filles à la régie, à l'administration.
Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
Si vous vous intéressez au festival de courts-métrages, vous avez forcément entendu parler de celui de Clermont-Ferrand. Un rendez-vous incontournable au début du mois de février, 46 éditions au compteur, et plus de 500 courts à découvrir tous les ans grâce à l'association Sauf qui peut le court-métrage. Cette année, Sorociné est partenaire de l'événement à l'occasion d'une rétrospective thématique « Insoumise, portrait de femmes indociles » qui réunira 24 films issus de 12 pays différents. Mais quelle place occupent les femmes dans le court-métrage et comment ? C'est ce dont nous allons parler avec nos invités du mois. Je suis Léon Catan.
Et je suis Mariana Agier.
Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nos micros les réalisatrices de la série Arte H24, Valérie Urrea et Nathalie Masduro.
Bonsoir.
Bonsoir.
Valérie Urrea et Nathalie Masduro, votre première collaboration date de 2014, mais vous avez également réalisé des films individuellement, et notamment des portraits de femmes, pour vous, Nathalie Masduro. Soit le thème de cette édition à Clermont. Valérie, vous serez des nôtres sur place, puisque vous faites partie du jury Queer Métrage. Alors pourquoi cette manifestation cinématographique est importante pour vous ?
Clermont-Ferrand, ça a une place vraiment très particulière, hein, parce que c'est un festival international. C'est le lieu, je pense, aujourd'hui, où on peut voir la plus grande richesse de courts-métrages et de créations non seulement européenne, mais surtout mondiale. Et ça, c'est une chance inouïe. Je pense qu'en plus, on parle trop rarement du court-métrage aujourd'hui sur les chaînes ou dans l'esprit, en fait, même collectif, parce qu'on est dans une idée toujours de long-métrage et de festival de long-métrage. Et je pense que Clermont-Ferrand a cette force-là, en tous les cas, de réunir des gens du monde entier autour de formes courtes, fortes, créatrices.
Dans l'idée du court-métrage, il y a l'idée quand même d'un premier film souvent, et donc c'est l'occasion vraiment clairement de découvrir des nouveaux talents, des jeunes qui commencent. Et puis dans le court-métrage, il y a quand même l'idée souvent d'une liberté qu'on perd aussi un petit peu des fois dans les longs-métrages, parce que l'économique prévaut et pèse lourd.
Pour rebondir avec ce que dit Nathalie, c'est ça, c'est souvent on considère le court-métrage comme un premier coup d'essai, alors que ça peut être en effet un premier coup de maître. Moi, je me souviens très bien d'avoir découvert Jane Campion à travers ses premiers courts-métrages et d'avoir été complètement subjuguée par un vocabulaire, un regard, par quelque chose de nouveau. Donc je pense que tout d'un coup, c'est un objet en fait que tout le monde peut s'approprier, et sous des formes aujourd'hui évidemment que l'on peut diffuser très facilement.
Et justement, comme c'est un type de film qui est souvent associé, voilà, au début, au budget un petit peu plus moindre, etc., est-ce que vous pensez que c'est un médium qui est plus facile à s'approprier pour des personnes qui sont minorisées, notamment des réalisatrices ? Nathalie ?
Oui, pour des réalisatrices ou des jeunes ou des gens qui n'ont pas en effet accès à des productions très développées ou avec beaucoup de budget, je pense que voilà, avec un téléphone même, tout le monde peut déjà créer un objet qui peut être très impactant, très fort. Et en effet, je pense que pour des communautés qui sont peut-être qui ont moins accès à des budgets importants ou à des productions vraiment installées, c'est vraiment le court-métrage le lieu idéal.
Pour moi, le court-métrage, c'est vraiment un objet du désir. C'est un désir de cinéma, un désir de s'exprimer, un désir de prendre la parole, de montrer des choses. Donc du coup, c'est ce premier désir qu'on essaye de concrétiser à travers des images, à travers une narration. Donc c'est vraiment un objet très important et qui porte en effet souvent, qui peut porter des maladresses ou voilà, mais on essaie de passer souvent un message ou quelque chose de fort. Mais c'est un geste très très important dans la vie de futurs cinéaste ou de future réalisatrice, voilà, c'est au-delà même de minorité. Alors c'est vrai que du coup, ça permet à pas mal de personnes, un panel très très large, hein. Comme dit Nathalie, on peut prendre un téléphone, on peut se saisir de n'importe quel outil aujourd'hui, c'est ça qui est génial.
Moi, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle La Fémis, et on était à peu près moitié fille, moitié garçon. C'était à peu près équilibré. Et sauf qu'aujourd'hui, parmi les réalisateurs et réalisatrices, c'est plus du tout cet équilibre qu'on retrouve. Donc, il y a évidemment une majorité masculine qui l'emporte dans le cinéma. Et je trouve que le court-métrage, c'est quand même vraiment le lieu où on est fait, pour des femmes notamment. C'est peut-être l'occasion de s'affirmer avant de passer le cap du long métrage.
Justement, cette disparité entre, d'une part, la proportion des femmes dans les courts-métrages et la très faible présence des femmes ensuite pour accéder à la production du premier long-métrage, elle sera très souvent présentée justement comme un chiffre très fort pour symboliser cette disparition des femmes dans le 7e art. Et je me dis aussi, le court-métrage, justement, du fait de son essence même d'être court, entre 3 et 30 minutes globalement, est-ce que ça permet pas aussi justement d'avoir quelque chose de plus impactant dans son discours, dans la manière justement de vouloir arriver droit au but?
Alors, je pense que le court-métrage, ça peut être tout, et c'est vraiment ce qu'on désire en faire. Que ça peut être en effet une histoire très ramassée, mais ça peut être juste un moment pris comme ça, qui serait le début d'un long-métrage peut-être, et c'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc, je pense que là, c'est vraiment à la réalisatrice, au réalisateur d'inventer une forme.
Justement, Valérie, vous avez cité Jane Campion parmi les artistes qui ont fait des courts-métrages qui vous ont marqué, mais est-ce qu'il y a comme ça d'autres, soit des réalisatrices ou en tout cas des courts-métrages avec un propos féministe, une dimension un petit peu insurgée qui vous ont marqué?
Moi, je pense à des objets particuliers qui sont des films d'une artiste suisse qui s'appelle Pippi Lotiriste. C'est des vidéos d'artistes, elles sont courtes, donc on peut peut-être dire que c'est des courts-métrages, mais il y a une narration, beaucoup de liberté et beaucoup de création aussi dans ce qu'elle fait. Moi, par exemple, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai vraiment adoré.
Moi, c'est difficile de dire là, parce que c'est vrai mes souvenirs, malheureusement, j'ai ce souvenir du film de Jane Campion, parce que ça a marqué et ça a été fondateur dans mon désir de faire du cinéma. Hein. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est la première fois où je pense, j'ai vu un objet qui n'était pas... Pour moi, le court-métrage, en fait, au départ, c'était en effet... mon premier court-métrage, par exemple, je peux m'inclure là-dedans, une espèce de coup d'essai où on fait ça avec des copains. À l'époque, moi, c'était en plus de la pellicule, ça coûtait super cher. J'ai bossé un mois pour pouvoir le payer. Enfin, voilà, il y a vraiment cette question de l'économie, du partage, du collectif. On est ensemble pour faire un objet. Chacun va s'essayer à des postes en plus pour la première fois, script, électro, enfin bon, voilà. Donc, c'est assez marrant parce que c'est une aventure commune, plus que d'une personne. Pour moi, ça a été ça. Je vois aujourd'hui quand même, ça se passe un peu différemment parce que les outils ont changé. Et je crois que, voilà, c'était pour moi quelque chose de l'ordre de l'essai qui n'était pas toujours bien réussi. La première fois que j'ai vu ce film de Jane Campion, j'ai compris en fin de compte qu'on pouvait avoir une forme narrative, raconter une histoire dans une forme très réduite. Donc, comme dit Nathalie, ça dépend vraiment de son désir, de ce qu'on veut raconter. Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Et voilà, de ce que l'on a de cinéma en soi, je dirais, quelque part. Je peux pas citer tellement d'autres courts-métrages qui m'ont marqué parce que j'en ai vu beaucoup. Et puis, c'est ça, il y a toujours une espèce de fraîcheur et de découverte que j'adore. Aujourd'hui, particulièrement, en plus, on a quand même tous ces courts-métrages de jeunes gens qui font du cinéma d'animation. Donc, du coup, ça s'est multiplié aussi. Toutes ces formes se sont multipliées, ce qui était aussi quelque chose d'une grande invention aujourd'hui. Moi, ce que je dirais, c'est un festival comme Clermont-Ferrand, ça appelle à la curiosité. Donc souvent, nous, c'est vrai, ça nous arrive de nous croiser entre nous, on va dire, féministes aimant le cinéma. Donc on se partage un peu les idées, les visions que l'on a eues de certains films. Par exemple, moi, c'est vrai que je suis très, très curieuse de tout le cinéma asiatique, de ce que l'on peut créer, particulièrement de Chine ou... Nous, on a eu l'occasion de faire une projection à Pékin de H24, donc on arrive mieux à sentir, en fait, lorsqu'on rencontre un public chinois, ce que l'on peut, ce que l'on peut pas. Moi, je trouve ça absolument fascinant, par exemple, de pouvoir découvrir dans un lieu tout ce cinéma-là. mais aussi le cinéma d'Amérique latine. Enfin voilà, ça c'est le côté, je trouve, de la curiosité absolument incroyable.
Pour revenir à H24, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez eu envie, à partir de ce format de court-métrage, d'aller ensuite vers du long-métrage ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse plus, vous, en tant que cinéaste, comme format ?
Oui, alors pour nous, la question, elle a été plus de... nous, on vient du documentaire avec Valérie, et c'était ce passage vers la fiction davantage, parce que même s'il y avait une partie, des fois, qui pouvait être fictionnée dans nos approches documentaires, là, c'était vraiment un passage à la fiction. Et c'est ça, je pense, qui nous a vraiment intéressés dans H24 et qu'on aimerait sans doute amener un peu plus loin, donc peut-être vers un long métrage, sans doute vers une série plus classique d'un format plus long.
Justement, le Festival de Clermont-Ferrand montrera au début de chaque programme un épisode de la série H24, 24 heures dans la vie d'une femme, que vous avez créée. Elle a fait beaucoup de bruit lors de sa sortie en 2021. Et le concept est assez astucieux. Donc, il y a 24 courts-métrages qui n'excèdent pas les 5 minutes, écrits par 24 autrices et tournés avec 24 actrices. Un casting 5 étoiles, d'ailleurs, il faut le dire. On peut citer Lola Lafont, Diane Kruger, Ariane Labed, Kaoutar Adimi, Chloé Delhomme. La liste est longue. Chaque épisode se déroule à une heure précise et toutes les formes de violence patriarcale sont représentées au fil de la série, de ces manifestations les plus spectaculaires au sexisme le plus insidieux. Est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter la genèse du projet ?
Oui, un jour on écoutait la radio, c'était pas un podcast mais c'était vraiment en direct, et ce qu'on a entendu nous a vraiment révoltés. C'était l'histoire d'une femme qui avait été défenestrée par son compagnon, qui était du coup tétraplégique, et l'assurance refusait de l'indemniser au titre qu'elle était, à leurs yeux, responsable de ce qui lui était arrivé. Et là, franchement, c'était au-delà de tout. On s'est dit avec Valérie, on ne peut pas continuer à entendre ce genre d'histoire jour après jour et ne rien faire. On a des outils, on a accès à des caméras, on a accès à un crayon et écrire un scénario, c'est possible, et il faut faire quelque chose. Donc il y avait dès le départ l'esprit de faire quelque chose de militant. Ça nous semblait vraiment essentiel. Donc la série est partie là, vraiment de cette histoire qui était vraiment trop révoltante.
Je pense qu'en plus, à partir de cette histoire, donc on avait envie de faire quelque chose de militant, mais de la ramasser en un manifeste, c'est-à-dire de pouvoir réunir avec cette idée que seul on ne peut rien faire, mais que collectivement, on peut faire beaucoup. Donc est venue très vite l'idée d'associer en fait d'abord les mots en invitant des écrivaines, parce que l'accès à la parole, c'est ce qui nous paraissait le plus fort, c'était mettre des mots. Et ensuite, en invitant des comédiennes et aussi des réalisatrices différentes pour réaliser, pour avoir une pluralité des regards, des sensibilités, comme on avait une pluralité aussi des violences que l'on abordait, du plus léger, de la petite remarque sexiste, au féminicide. Donc l'idée de ce manifeste féministe sous une forme très courte nous est apparue vraiment un concept très très fort, et on a réussi, grâce au talent et à l'écoute, à la participation de toutes ces femmes extraordinaires, il y a 66 femmes qui ont participé au projet, on a pu réaliser, non pas seules, mais à 66 personnes, ce projet.
Et la forme courte, elle, c'est vraiment un choix. Un choix de notre part, parce qu'on a voulu que ça corresponde à peu près au temps que ces histoires passent à la radio, ou le temps de lecture de ces histoires qu'on appelle à tort des faits divers. Et donc on s'est dit qu'on voulait rassembler dans ce même temps de lecture les scénarios et les films. Et on avait aussi l'idée que ce seraient des films plus faciles à partager sous cette forme courte.
Moi, j'aimerais juste ajouter aussi le fait qu'on vient du documentaire, que pour nous, on aurait pu tout à fait se dire allons, on va faire 24 modules documentaires en allant interviewer 24 témoignages. On avait, avec Nathalie, réalisé un film en Iran. On avait rencontré des artistes iraniennes qui... sous le régime ne pouvaient pas dire tout ce qu'elles désiraient, donc faisaient appel à ce moment-là à la métaphore pour pouvoir exprimer en fait l'oppression sous laquelle elles vivaient. Donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup appris auprès de ces femmes, et cette idée d'utiliser la fiction, d'utiliser la métaphore dans les réalisations nous est apparue vraiment très vite comme un outil vraiment fort aussi, un moyen d'expression.
Oui, puis je pense que la fiction nous permettait de dépasser l'histoire singulière. Ça devenait un peu l'histoire de nous toutes.
Hier, j'avais un nouveau truc, réceptionniste. Loin, mais bien payé. Ils me disent que je commence à 8h. Je pars de chez moi à 6h10. J'arrive à 7h45. Je passe l'uniforme. Après, elle m'explique que je vais accompagner les clients jusqu'aux salles de réunion et au bureau. Oh, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Bah moi je réponds, des derbies. À ce moment-là, un mec en costume arrive et il dit, un problème, Jeanne? Jeanne, elle dit, elle est à plat. Lui, elle est nouvelle? Oui, nouvelle. Et elle est à plat, ouais. Et elle porte des... c'est quoi le mot Des derbies, je dis. Elle a qu'à aller s'acheter une paire, dit l'homme, comme si j'étais pas là, il y a un magasin au coin de la rue. Et prenez pas des talons de 5, il dit, c'est ridicule. Prenez des talons de 8 ou 10. Je regarde le mec, c'est mocassin. J'explique que je peux pas marcher en talons. Ça me cisaille, je me tords la cheville et descends des escaliers. Impossible, tu connais, tu m'as déjà vu. Il me dit que j'y mets de la mauvaise volonté. Il me parle de questions de standing, qu'on attend des choses de cette entreprise, que les clients attendent certaines choses, et les talons en font partie. Oui. Hein? Les clients viennent ici parce qu'ils pensent non. Parce qu'ils savent qu'il va leur arriver deux choses à l'intérieur de ce bâtiment. Ils verront des réceptionnistes en talons hauts et discuteront avec des conseillers talentueux.
La série est diffusée sur le site d'Arte gratuitement. Est-ce que vous pouvez juste me dire deux mots sur la production et le financement de ce projet? Parce que tu mentionnais, Valérie, le fait de faire un geste militant et dans l'industrie du cinéma pour trouver une production, pour trouver des financements. C'est quelque chose auquel les producteurs peuvent être un peu frileux en général.
On a eu de la chance de pouvoir travailler avec des productrices avec lesquelles on avait déjà travaillé, qui sont des femmes vraiment engagées. Julie Guesnon-Amarante et Justine Nochberg, qui ont une société de production qui s'appelle les Batelières Productions. Elles ont que des beaux projets dans cette boîte, donc c'est vraiment chouette. Et parallèlement, Arte, qui très vite a dit on vous suit. Donc à partir de là, nous, ça nous a quand même donné des ailes. Et toutes ces 66 femmes dont tu parlais, c'est que des femmes très engagées, elles aussi. Actrices, comédiennes, écrivaines, c'est vraiment des femmes et qu'on a choisi aussi pour ça, qui sont des femmes militantes aussi ou engagées. Donc voilà, le projet, il est parti comme ça. Et c'est vrai que dans l'économie aussi, parce qu'on n'avait pas une grosse économie, il a été aussi décidé très vite que tout le monde serait payé de la même façon. Réalisatrice, actrice inconnue, grande star, tout le monde a eu le même salaire.
On a eu de la chance aussi parce qu'on a été soutenu par certaines fondations, comme la Fondation Orange ou la Fondation Raja, qui est très engagée. La directrice de la Fondation Raja est très engagée aussi sur ces questions de violences faites aux femmes, de discrimination. Donc c'est un projet qu'elle a soutenu. Et c'est vrai qu'on a été soutenu aussi énormément par Arte. Alors après, c'est vrai que, comme disait Nathalie, c'est une économie où chacun s'est un peu serré les coudes, où il a fallu des fois travailler très très vite, mais c'était important parce que une chose que j'aimerais ajouter, c'est lorsqu'on a décidé de faire H24, c'était aussi en réaction par rapport à ce qui se passait dans le monde du cinéma. C'est-à-dire que c'était après la cérémonie des Césars avec Adèle Haenel qui s'était levée, qui avait quitté la salle, et puis le peu de réaction derrière du cinéma français. Ensemble, on voulait aussi un petit peu réagir à ça. C'est pour ça qu'on a impliqué tout de suite ces comédiennes qui ont dit oui, qui ont répondu, parce qu'elles avaient aussi un moyen là de pouvoir exprimer de façon claire leur engagement. Donc ça a créé depuis des liens, puisqu'on est toujours en relation avec certaines comédiennes ou écrivaines, Et c'est vrai que ça crée des liens forts. Je pense que ça a créé...
Un réseau de solidarité.
Oui, un peu, oui.
Et justement, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de ne s'entourer que de femmes pour faire ce projet en particulier, Nathalie?
Bah, pour une fois qu'on pouvait choisir, on n'a pas hésité, parce que là, c'était vraiment donné... Enfin, c'était pour nous, le but, c'était quand même de faire entendre la voix de ces femmes qu'on n'entend pas souvent. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a été chercher des grandes écrivaines, parce qu'on s'est dit, elles vont leur donner une voix magnifique à ces femmes en écrivant tous ces monologues. Et donc, évidemment, pour donner voix à ces femmes, il fallait que ce soit quand même plutôt d'autres femmes qui le fassent. Maintenant, on a quand même eu des hommes qui ont travaillé sur la série, notamment notre chef-op, Philippe Guibert, qu'on aime beaucoup, et on n'avait pas l'intention de se priver de son talent.
Et suite à la diffusion de la série, H24 a notamment été décliné en livre. Il a aussi été projeté dans divers circuits de diffusion, que ce soit au théâtre, au cinéma. Vous mentionnez aussi en Chine ou au Festival d'Avignon sur l'édition de l'année dernière. Comment est-ce que s'est passé pour vous le parcours de cette série depuis sa diffusion? Est-ce que vous avez pu échanger à ce propos avec le public?
Alors, c'était toute une aventure, et c'est une aventure qu'on a adorée, en fait, à la sortie. D'abord, Arte a été très engagé sur la sortie. Donc, ils nous ont organisé des projections partout en France. Ils ont été très à l'écoute. On a pu communiquer d'une certaine manière et pas d'une autre. Voilà, ils ont vraiment été très à l'écoute, parce qu'on peut très vite déborder, en fait, sur ces questions-là. Donc, ça a été un travail vraiment avec toute l'équipe de communication. Ce que l'on a fait en premier, nous avons invité, en fait, lors des projections, des associations, comme nous toutes, dans les régions, donc pour donner la parole, pour questionner, pour ensuite débattre. Donc ça a été vraiment génial. Il y a des personnes comme l'actrice Nadège Bossondiane, Lola Lafont, Chloé Delhomme, enfin, ces personnes ont participé aussi à ces projections. Donc on a pu faire des allers-retours, et puis peu à peu il y a eu moins de projections, mais il y en a eu encore. C'est-à-dire qu'ensuite ça a été des demandes de projections, des demandes de théâtre, des demandes par exemple le MeToo théâtre, parce qu'il y avait eu un problème à ce moment-là avec un metteur en scène qui avait eu des violences faites aux femmes à Lyon, des associations, des directions.
Bah nous, on a été contentes aussi de voir, et c'était notre objectif, que H24 pouvait être aussi un outil. Un outil même dans les écoles, on l'a présenté dans différentes écoles, en prison, il a été aussi projeté dans des prisons. Il y a des demandes de commissariat pour voilà, mais c'est pour ouvrir la discussion. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que certains épisodes, on nous demande alors, parce que c'est une petite réflexion sexiste, ça aussi c'est un problème. Bon, et c'est voilà, ça permet d'ouvrir la discussion, et cette dimension d'outil, bah, nous on la revendique vraiment, et on en est assez fiers.
Oui, je trouve que ça souligne bien le fait que c'est profondément ancré dans le réel. Et justement, je voulais revenir sur le fait que vous êtes documentariste à l'origine. Dans H24, justement, il y a cette dimension très, très intérieure, en fait, où on va se retrouver en partage complet des émotions de l'héroïne, de ses pensées, de ses fantasmes aussi parfois. Et en même temps, c'est très encapsulé dans un endroit précis, à un moment précis. Je me demandais comment est-ce que ce bagage dans le documentaire a influencé en fait cette manière de s'emparer de la fiction.
Je pense déjà dans le choix des sujets, en fait. Mm-hmm. On a passé beaucoup de temps avec Valérie à chercher les histoires qui seraient des supports, donc les histoires vraies, qui seraient des supports à l'écriture pour les écrivaines. C'est ce qui nous a pris vraiment quasiment un an, enfin très longtemps. Donc voilà, ça je pense que c'est dans ce rapport-là au réel. Et ensuite, je ne sais pas, dans la réalisation, s'il y a des choses qui viennent du documentaire pour toi.
C'est un petit peu compliqué. Enfin, nous, on a un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on vient toutes les deux de deux lieux vraiment différents. Moi, je viens plus de l'image, de la technique, avec une forme... très peu de formation, on va dire, universitaire. Nathalie vient de la FEMIS, beaucoup plus de l'écriture et de la réalisation. On se nourrit, en fait, avec Nathalie, depuis le début, on se nourrit toujours de peinture, de photographie, d'expérience. La photographie, par exemple, c'est quelque chose qu'on aime énormément, parce que la photographie nous fait voyager. Le premier film qu'on a fait, d'ailleurs, c'était un film sur l'Afrique du Sud, qui réunissait un grand nombre de travaux photographiques, dont Zanele Muoli, et qui nous décrivait au fond comment l'Afrique du Sud, une partie de l'histoire de l'Afrique du Sud, on va dire, pour faire court. Mais c'est vrai que chaque fois, on a appris en fait de tous ces médias, de tous ces médiums. On fait du documentaire, mais on a toujours été, même dans nos réalisations, à tendre vers une manière de raconter les choses qui passe aussi par la métaphore, on va dire. Ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc là, H24, c'est vrai, c'est nourri peut-être plus de la métaphore, plus de ce que l'on a appris auprès de toutes ces personnes qu'on a pu rencontrer, de nos lectures, de la littérature, enfin, de tout ça, que du documentaire et du réel. Donc c'était un mélange, je pense, et une façon de regarder le monde avec un œil beaucoup plus large et beaucoup plus vaste.
Dans le rapport au réel ou au documentaire, ce qu'on peut raconter peut-être, c'est l'histoire de l'épisode de Lola Lafont qui s'appelle « Je serai reine » et qui est l'histoire, on lui a proposé d'écrire sur l'histoire qui se passait à ce moment-là dans le patinage artistique où pour la première fois, une femme a témoigné des violences qu'elle avait subies. Et on lui a proposé d'écrire à partir de cette histoire, mais de tout ce que cette histoire avait déclenché aussi comme libération de la parole dans le monde sportif en général, puisqu'à la suite de la prise de parole de Sarah Abitbol, cette patineuse, il y a des nageuses, des sportifs de toutes sortes qui ont témoigné à ce moment-là des violences qu'elles avaient subies. Et donc on a donné tout ça à Lola, qui s'en est emparée. Et en fait, l'histoire que Lola a écrite, c'est pas du tout l'histoire de Sarah Abitbol, c'est l'histoire de, on pourrait dire, toutes les patineuses ou toutes les sportives ou toutes les femmes, enfin voilà. Et un jour d'ailleurs, elle a fini par nous confier que c'était en pensant à une amie à elle qu'elle avait écrit cette histoire. Donc voilà, on parle en partant d'un fait très précis qui s'est passé, voilà, dans le réel. La fiction arrive à parler de toutes les femmes.
Je pense qu'aujourd'hui, on a une fascination au réel. Hein, on est complètement fasciné par la série basée sur des faits réels, la fiction fondée sur des faits réels. Enfin, voilà, il y a vraiment une espèce de fascination aujourd'hui de ce rapport au réel. C'est-à-dire que la fiction devrait, en fin de compte, épouser d'une certaine manière notre réalité. Et si elle n'épouse pas cette réalité, on se dit qu'après tout, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, enfin, une espèce de monde comme ça que l'on construirait. Voilà, alors il y a ceux qui font, qui projettent un peu dans l'avenir des récits, qui seraient plutôt de l'ordre du futurisme. Et puis, il y a énormément, aujourd'hui, on voit énormément de productions qui sont, voilà, sur le réel. C'est vrai que la question du réel pouvait se poser aussi sur H24, qu'on aurait pu...
Oui. Bah oui, c'est important aussi, parce que nous, on a quand même tenu à marquer à la fin du film, avant le générique, on a marqué à chaque fois, à chaque film, d'après un fait réel. Et ça nous semblait important parce que, bah, en effet, tout ça n'est pas de la fiction. C'est à la fois à travers ce médium fictionnel, mais ce n'est pas de la fiction. C'est aussi voilà, un fait réel, des faits réels.
Et là, c'était une question intéressante parce que c'est toujours la question du regard et de comment on va recevoir le récit. Donc, on s'est penché sur cette question de savoir si on mettait d'après des faits réels en début ou en fin de film. C'est-à-dire comment on va aborder, comment on va regarder, comment on va s'imprégner et tout d'un coup, quel impact va avoir. C'est vrai que nous, on a fait le choix de le mettre en fin de film parce qu'on voulait vraiment laisser le spectateur rentrer directement dans le récit parce qu'on avait besoin à un moment de cette plongée dans ce, on va dire en plus dans cette forme très très courte, qui avec une manière de ne pas vouloir impacter immédiatement sur son imaginaire, en disant bon bah ça s'est passé, vous allez voir, on va en faire une interprétation. Donc ça, je trouve que c'est des questions vraiment intéressantes parce qu'on est toujours en attente de quelque chose. H24, c'était un peu offrir des récits sans avoir attendre, c'est-à-dire que chaque épisode vous permet d'ouvrir une porte et vous ne savez pas trop où vous allez aller. Du coup, ça change un peu l'écoute et le regard.
Dans vos autres réalisations, on note aussi le documentaire Alice Guy, l'inconnue du 7e art. Vous avez aussi préfacé la ressortie de son autobiographie La Fée Cinéma, republiée en 2022. Je voudrais juste lire un petit extrait de la préface que vous avez signée. En 1914, la revue Moving Picture World publie un long article signé Alice Guy sur la place des femmes dans le cinéma. Elle y regrette leur peu de présence dans cette industrie naissante, une discrimination qu'elle affirme liée à leur sexe. Sur une pleine page, elle explique en quoi les femmes ont plus de dispositions naturelles que les hommes pour devenir de grandes cinéastes. Elles seraient en quelque sorte faites pour cela. Incroyable. Ces propos nous sidèrent. Si ce texte avait été publié dans les livres d'histoire, enseigné dans les écoles, lu à la radio, adapté à la télévision, notre monde serait aujourd'hui tellement différent. Nos perspectives, nos imaginaires, nos représentations complètement autres. La figure d'Alice Guy, depuis quelques années, voilà, a été très revalorisée. Il y a eu énormément de recherches dessus sur le fait de la réinstaurer sa place de pionnière dans le cinéma. On en est où aujourd'hui dans la revalorisation du patrimoine cinématographique ?
Bah, il y a encore beaucoup de boulot, moi, je dirais. Oui, il y a des choses maintenant qui commencent à être sues, quand même, mais pas tant que ça. Je pense que le combat, il reste à mener, et ça, il y a plein de femmes encore qui restent à découvrir, qu'on connaît pas, qu'on connaît mal, dont le travail est quand même invisibilisé aujourd'hui.
Oui, quand on pense qu'encore sur les sites internet qui veulent revaloriser Alice Guy, les personnes se trompent de photo et mettent la photo d'une comédienne américaine qui est à la caméra. Du coup, la question de l'invisibilisation, elle se pose déjà là. Elle se pose déjà comment est-ce qu'on transmet. On a beau faire le travail à un moment donné, chacun dans notre coin, en fin de compte, pour remettre à jour ces personnes-là, on s'aperçoit aussi que la chaîne va très très vite, hein. On est pris par le temps, donc très très vite on va distribuer les informations, on ne va pas les vérifier et de nouveau des erreurs vont venir s'immiscer au milieu des photos ou des documents qu'on va associer. C'est pour ça que je trouve que c'est important, par exemple, que Sorociné existe, ou voilà, que les jeunes puissent avoir des outils autres qui sont mieux documentés, qui sont documentés un peu plus profondément, qui sont, voilà. Je pense que là, à ce moment-là, avec la multiplication, on va dire, non pas des petits pains, mais des sites comme le vôtre, par exemple, ou des lieux de recherche ou d'archives, d'archivage, de documentation, on pourra enfin avoir des outils un peu plus sûrs et on pourra diffuser, en fait, des images aussi un peu moins rapidement. C'est vrai que, du coup, le problème se multiplie. On a l'impression que c'est comme un petit caillou, vous savez, qu'on lance dans l'eau et puis pop, 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 ça rebondit.
Et là, on peut saluer le travail quand même de Margot Gallimard à l'Imaginaire, qui fait ce travail de redécouverte de textes souvent féministes d'ailleurs, et là qui nous a permis de redécouvrir Alice Guy, ses mémoires qui n'avaient pas été publiées depuis des décennies.
Oui, j'ai l'impression que ce qui ressort aussi beaucoup de ce qu'on vient de dire, c'est aussi la notion d'accessibilité, en fait, d'accès à cette culture qui nous a été refusée pendant longtemps. Et à mon avis, l'accès, c'est aussi un enjeu dans le court-métrage. Je trouve qu'il y a beaucoup de courts-métrages qui sont très difficiles à trouver, à part grâce à des plateformes type justement Arte, Mubi aussi. Je sais que c'est comme ça que j'ai découvert les courts-métrages d'Andrea Arnold, que j'ai adoré, mais impossible de les voir autrement. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là, en fait, des initiatives pour faciliter l'accès à tous ces films qui sont des trésors, en fait, et où il y a une barrière, quoi, où on ne peut pas les trouver?
Bah oui, ça c'est le drame des réalisatrices, réalisateurs, c'est comment montrer son travail. Et en effet, y a quand même YouTube, mais il faut connaître, il faudrait en effet une plateforme qui puisse donner accès à, comme ça, directement des jeunes talents, mais ça reste à faire.
Je pense qu'en plus, on n'a pas du tout la culture du court-métrage chez les jeunes. Ça, c'est un vrai problème parce que c'est un outil absolument extraordinaire où on peut quand même visiter des pays, des cultures, des mentalités. On peut visibiliser des minorités, quel que soit le regard. Hein, et c'est vrai que je trouve que, par exemple, dans les lycées ou dans les universités, il n'y a pas assez de plateformes qui puissent diffuser justement ces courts-métrages. Et ça, c'est vraiment dommage. Non, mais on a l'impression toujours qu'on a nos petites rames au bout des mains et on doit ramer fort et dur, en fait. En particulier sur, c'est vrai, les films de femmes, de filles, de queer, des minorités... Par exemple, on pourrait parler aussi des minorités, des femmes asiatiques. Voilà, c'est vrai que là, par exemple, on n'en parle jamais. Ce sont des outils. Nous, on connaît des personnes qui travaillent justement à l'image, qui essayent de mettre en avant leurs images, de pouvoir dire quelque chose de qui elles sont. C'est super important.
Et j'en profite pour recommander à notre public l'excellent court-métrage d'Alexis Langlois qui s'appelle Les démons de Dorothy et qui raconte justement la déconvenue d'une jeune réalisatrice qui a cette espèce d'univers visuel hyper marqué où en fait elle veut réaliser des films avec des bikeuses lesbiennes totalement botoxées dans un univers un peu dystopique, queer, enfin voilà quoi, c'est très très imagé et qui en fait se fait constamment refuser des financements parce que ce n'est pas assez universel. Voilà,
donc on comprend pas.
Non, mais ça, c'est un vrai problème, de toute façon. C'est quand on ne répond pas à la norme sur énormément de financements, on se fait recaler. Donc, ça reste, de toute façon, le problème du financement, en fait, c'est le nerf de la guerre.
Donc, vive le court-métrage.
Cette nouvelle édition de Clermont, elle intervient dans un contexte un peu particulier, vu que l'année dernière, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, présidé par Laurent Wauquiez, a annoncé réduire de moitié la subvention allouée au festival. Ce n'est clairement pas anodin pour l'association Sauf qui peut le court-métrage, puisqu'elle tient debout grâce aux subventions publiques à hauteur de 60%. Donc moi, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que le court-métrage, il est en danger aujourd'hui ?
Il y aura toujours, je pense, des personnes pour en faire. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, il y a des outils qui sont hyper démocratisés. On peut faire un court-métrage avec son téléphone. C'est vraiment une question de désir. Alors maintenant, c'est la plateforme, c'est le festival qui est en danger.
Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours des artistes qui feront un peu leur chemin.
Ça,
peu importe à quel point c'est difficile, mais effectivement, c'est les espaces qui... Enfin, peuvent manquer aujourd'hui si on continue baisser aussi drastiquement les financements.
Ben oui, c'est tellement important qu'un lieu comme Clermont existe justement pour partager ses expériences, pour pouvoir montrer son travail, pour apprendre aussi, pour regarder tout simplement, pour s'enrichir. Donc ça c'est une politique de droite qui est vraiment néfaste et dure pour la culture.
Mais ils vont résister, il faut résister à cela. Même si on réduit certaines catégories, ou on réduit la manière de faire, enfin on a une façon de voir les choses et de faire de manière plus économique, il faut résister. Et puis c'est notre force, et c'est vrai que les artistes... ce sera difficile de les faire disparaître.
Tout à fait. Et d'ailleurs, j'invite nos auditoristes à apporter leur soutien à l'association Sauf qui peut le court-métrage. Nous pouvons tous et toutes faire quelque chose à notre échelle pour lui prêter main forte et visibiliser leur cause. Et vous pourrez retrouver une liste de ressources dans la description de cet épisode pour soutenir ces initiatives. Le podcast Sorociné, c'est fini pour aujourd'hui. Nathalie Masduro et Valérie Urea, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Valérie, tu seras donc au festival dans le jury Queer Métrage. Et les épisodes de H24 y seront diffusés, mais vous pouvez aussi les retrouver dans leur intégralité sur le site d'Arte si vous ne pouvez pas faire le déplacement. J'ai aussi entendu dire que vous préparez un prochain film.
Oui, on est en plein montage d'un long métrage documentaire. qui est une relecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir aux États-Unis.
C'est une relecture qui nous permet d'inviter en fait des activistes, mais aussi des penseuses comme Judith Butler, Laure Murat, Sylvia Federici. On a très hâte de présenter ça au public. Voilà, c'est un film, on va dire, d'idées et de sentiments, et surtout c'est un film encore militant.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Mariana d'avoir co-animé cet épisode.
Merci à toi et merci à vous deux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez également découvrir notre couverture du festival sur le site internet sorociné.com. Quant à nous, on se retrouve à la fin du mois pour le focus de février. Et petit spoiler, ça va chanter. À bientôt !